Le Grand Dialogue.
Siki Kafoba.
Et Dewani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halou Dmondi.
Chienne Berry. Siki Kafoba.
Le Grand Dialogue.
C'est dans le cadre de la mise en œuvre de son mandat que la commission Vérité, Justice et Réconciliation a effectué une série de visites aux autorités traditionnelles et religieuses de Bamako. C'était hier mercredi 15 mars 2017 que la délégation a été reçue au siège du Haut Conseil islamique et du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, ensuite par les familles fondatrices de Bamako et aujourd'hui 16 mars par les leaders chrétiens. Quel est l'apport des religieux et des autorités traditionnelles dans la construction de la paix? Où en est-on avec les missions de la CVJR? Le travail de la dite commission prendra finalement combien de temps? Autant de questions auxquelles nous allons répondre avec nos invités qui sont Oumar Assey Touré de la CVJR, l'abbé Edmond Dambélé, il est le secrétaire général de la conférence des évêques du Mali, il sera au téléphone, Issa Kaoudjim du Haut Conseil islamique également au téléphone, Ibrahim Ikassa Maïga, il est enseignant à l'université de Bamako. Jeudi 16 mars, je suis Ousmane Diadé Touré pour vous présenter cette émission qui est mise en onde par Sedumbo.
Le Grand Dialogue.
La CVJR multiplie les rencontres et les consultations. L'on sait au Mali que les autorités traditionnelles et religieuses ont un grand poids sur l'échiquier social. Nous avons avec nous donc Oumar Assey Touré de la CVJR, il est commissaire de la CVJR. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec les missions justement de la commission Vérité, Justice et Réconciliation? Est-ce que les travaux avancent?
Ok, merci. Je profite de votre micro pour d'abord remercier votre auditoire parce qu'il est quand même important. Sidio Tamani joue un grand rôle aujourd'hui dans le rôle de l'information. Nous, au niveau de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, depuis notre création, jusqu'à nos jours, nous sommes à pied d'œuvre pour faire en sorte que la mission que l'État nous a confiée, pour que nous puissions réussir notre mission. Après notre mise en place, nous avons passé par la mise en place de notre stratégie d'intervention, de notre plan d'action. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons 3 ans comme mandat. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons créé nos antennes régionales. N'est-ce pas? Et les victimes commencent à déposer et ils affluent de façon très progressive au niveau de nos antennes régionales. Où au jour d'aujourd'hui, on peut même dire qu'on est à peu près à 2000 et quelques, n'est-ce pas, de dossiers déposés auprès de nos antennes régionales pour dire que nous avancions. Par rapport à la visite que nous avons rendue, n'est-ce pas, aux autorités religieuses et traditionnelles de Bamako, parce que nous nous disons quelque part que dans notre mission qui est la réconciliation nationale, le retard que nous avions, les autorités traditionnelles et religieuses ont un grand rôle à jouer dedans. Raison pour laquelle nous sommes d'abord partis chez eux de façon individuelle, parce qu'on les a rencontrés de façon globale, n'est-ce pas, quand on avait commencé pour l'appropriation du mandat de la CVJR. Et là, nous sommes partis groupement par groupement pour les rencontrer, leur expliquer un peu le mandat et leur expliquer un peu qu'est-ce que nous attendons d'eux pour qu'ils nous accompagnent un peu dans les processus de réconciliation nationale. Parce que sans eux, il va être très compliqué à ce que nous puissions réussir, n'est-ce pas, ce dont nous avons tous besoin aujourd'hui dans notre pays, qui est la réconciliation.
Alors, est-ce que, par exemple, au niveau de certaines régions telles que Taoudéni ou Kidal, vous avez pu installer vos équipes?
Vous savez, nous avons notre antenne à Bamako qui couvre Bamako et Sikasso et Koulikoro. Et l'antenne de Ségou couvre Ségou et la région de Sikasso. Et au niveau de Mopti, nous avons la région de Mopti. Au niveau de Kidal, nous avons la région de Kidal, mais pour le moment qui n'est pas opérationnel, parce que nous sommes dit le présent, le chef d'antenne est nommé. Pour le moment, nous avons entendu un moment pour que les autorités intérimaires puissent être installées. Une fois que le gouverneur va être à Kidal, nous serons à Kidal. La région de Tombouctou gère la région de Taoudéni et la région de Gao gère la région de Menaka. Donc voilà un peu quel est le dispositif. C'est-à-dire de façon administrative, nous ne sommes pas présents sur tous les pays, mais de façon organisationnelle, chaque antenne s'occupera d'une région proprement dite pour voir un peu comment on puisse avoir l'ensemble des victimes sur toute l'étendue du territoire national.
Merci M. Touré. Ibrahima Ikassa Maïga, vous êtes enseignant à l'université de Bamako. On a quelquefois l'impression que les Maliens ne comprennent pas vraiment le rôle justement de cette commission Vérité, Justice, Réconciliation. Comment est-ce que on peut expliquer cela?
Merci bien, Michel Touré. Merci à Oumar Touré aussi pour sa présence sur le plateau et justement cette communication assez importante dont les populations ont besoin. Je salue au passage les hommes et les femmes qui animent la commission Vérité, Justice et Réconciliation au Mali, qui sont à pied d'œuvre, qui font des efforts colossaux pour parvenir à cette mission qui, à mon sens, est une véritable gageure. Pourquoi? Parce que, vous voyez, nous voudrons bien parvenir à la réconciliation nationale. Mais la crise sur laquelle se fondent justement les missions de cette commission, cette crise, est encore là. Elle est là et elle continue à faire des victimes. Il y a donc des auteurs de crimes de toutes sortes. Là, les droits de l'homme sont violés à tous les coups, et de façon individuelle, de façon collective. Donc, je dis, est-ce qu'il n'aurait pas fallu attendre un temps soit peu que nous ayons des éléments assez probants, que tout le monde est d'accord pour aller à la réconciliation, pour commencer ce travail?
Est-ce qu'il ne va pas se poser un problème?
Voilà, est-ce qu'il y aura pas
mandat,
aussi...
Le mandat de 3 ans est quand même relativement court.
Ça dépend. Je pense que c'est une commission qui a été créée en janvier 2014.
Et ça, c'est la loi.
Ça, c'est la loi. Et donc, ça veut dire qu'il reste encore un peu. Mais simplement, est-ce que ça ne fait pas double jeu? Est-ce qu'il n'y a pas empiètement entre les missions de cette commission et celle de la conférence d'entente nationale, qui aussi veut aboutir à un pacte de réconciliation entre tous les Maliens? En fait, c'est cela. Et moi, de mon point de vue, on aurait pu opportunément attendre que la conférence d'entente nationale se tienne, que les victimes et leurs bourreaux présumés se font face, que chacun ébauche ce qu'il a pu l'avoir, et pour qu'on ait un schéma pour aller vers une commission justice, vérité et réconciliation. Maintenant, ça vient à l'idée qu'il y a eu des crises cycliques et que déjà, peut-être au sortir de la crise des années 90, où on est parvenu au pacte national, on aurait pu opportunément, parce qu'il y a eu des violations autant graves que ce qui se passe encore ici. Donc pour moi, il y a une communication assez soutenue qui doit être dirigée à l'égard des citoyens, mais j'ai dit ça va être difficile puisque le citoyen ne comprend pas qu'on lui demande d'aller à la justice, à la réconciliation, et que les hommes tombent de tous les côtés, il y a des atteintes au bien, il y a des atteintes à la mémoire collective des personnes, ça continue. Je prends le thème de Azawad. Aujourd'hui, d'aucuns ressentent très mal qu'on dénomme leur zone, leur terroir Azawad, alors qu'ils n'ont jamais été consultés à ce propos. Et ça continue. Donc, j'ai dit, il aurait fallu qu'une conférence d'entente nationale mette d'accord tous les Maliens.
Ou le référendum.
Je pense une conférence d'entente nationale qui va justement avoir comme matière la crise qui a débuté fin 2011. Début 2012 au Mali, pour dire voilà ce qui nous a eu, qui a fait quoi pour s'entendre sur les bases d'une réconciliation véritable. Sinon il y a un arrière-goût amer d'incompréhension qui fuse toujours et qui plane.
Merci. L'abbé Edmond Dambélé, vous êtes le secrétaire général de la conférence des évêques du Mali. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes représenté au sein de cette commission Vérité, Justice et Réconciliation?
Merci de me donner la parole. Et pour répondre à votre question, je dirais oui. Parce que quand la commission a été officiellement créée, l'Église catholique a été contactée par les autorités pour se faire représenter donc, au sein de la commission. Et donc l'Église catholique, à travers la conférence épiscopale, a désigné son représentant au sein de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Donc nous nous sentons partie prenante de cette commission et de son travail.
Alors comment évoluent les travaux de votre côté?
Bon, les travaux, d'après ce que nous en savons, évoluent à leur rythme. Nous le savons, la crise a des racines profondes dans l'histoire du Mali. Et ce n'est pas en quelques semaines ou en quelques mois qu'on peut arriver à la résoudre et à trouver des solutions donc à tout ce qui s'est passé dans cette histoire. Mais nous savons que la commission fait de son mieux, en tout cas pour avancer un peu, même si nous avons souvent l'impression que cela est lent. Parce que le souhait de tous les Maliens aurait été que les choses évoluent rapidement, que nous sortions rapidement de la crise, qu'il y ait la réconciliation le plus tôt possible, qu'il y ait la paix, et que vraiment les pays prennent le chemin de développement. Donc nous avons cette impression de lenteur, mais je crois que si on comprend aussi la profondeur et l'importance de la mission de la Commission, on peut dire qu'elle fait de son mieux à l'heure où nous sommes.
Merci, l'abbé Edmond. Restez avec nous pour tout au long de cette émission. Issa Kaoudjim, vous êtes-vous du Haut Conseil islamique? Qu'en est-il de la représentativité du Haut Conseil islamique dans cette commission Vérité, Justice et Réconciliation?
Merci, je salue Studio Tamani. Mais avant de répondre à cette question, permettez-moi juste de faire un bref rappel. Vous savez, cette commission, d'abord, l'initiateur principal de cette commission, c'est l'actuel Premier ministre Modibo Keïta, alors qui était le haut représentant de son excellence Dame Boubacar Keïta, qui a abouti à ce qu'on appelle le processus qui a mené le Mali dans ce scénario qui est l'accord inclusif sorti des accords d'Alger, si on peut s'exprimer ainsi. Et à son temps, il avait estimé que Dieu pourrait jouer un grand rôle en aval. Et malheureusement, dans son approche, tout le monde a été invité à Alger, CAFO, Indienne, tout, et les jeunes, les femmes, les syndicats, mais il n'a pas voulu que les religieux soient associés à ce processus d'Alger. À son temps, le très respecté l'imam Mahmoud Diko a estimé que c'était une grave crise, une grave erreur, alors d'occulter l'aspect religieux ou spirituel de cette crise. Et aujourd'hui, alors, on nous a rattrapé parce que ceux qui qualifient les terroristes, les djihadistes, les hommes en armes, il n'y a pas de distinction entre ceux qui ont pris des armes pour tuer des militaires à Galog et ceux qui sont en train de tuer au nom de l'islam, que sais-je encore. Alors, ils sont tous dehors de la loi. On a trouvé un processus pour parler avec les indépendantistes, pour parler avec les séparatistes, et aujourd'hui, on pense que alors, il faut se mettre d'accord alors, pour lutter contre le terrorisme, nous sommes d'accord. Alors, mais qui définit le terrorisme, qui est terroriste? Je pense que cette commission, pour répondre, nous avons été démarchés et pour donner un représentant, nous avons un représentant, mais nous estimons que cette commission n'a pas la légitimité qu'il faut pour résoudre ce problème. Et souvenez-vous que la première commission à son temps, c'était l'ancien ministre Sukuna et qui a échoué avec le président Diongkouda qui l'avait mis. Et cette commission aussi, je suis désolé de le dire, ne pourra pas résoudre ce problème parce qu'elle n'a pas la légitimité qu'il faut. Demandez aux Maliens qui connaissent cette commission, ils vous diront non. Et donc, tout ce dit, c'est des perdièmes, c'est des missions, c'est des budgets, c'est des fonctionnements. Mais en réalité, je pense que c'est un faux débat.
Alors, si je comprends bien, vous êtes représenté au sein de cette commission également?
Mais bien sûr, on ne sommes représentés, mais nous ne décidons pas.
D'accord. Est-ce que vous pensez que c'est un peu utopique de vouloir remonter jusqu'en 1960,
Mais la crise que nous parlons, mais elle a évolué sous multiforme. En 63-64, déjà, on parlait de rébellion Touareg. En 90, on parlait de rébellion Touareg. Maintenant, on parle de djihadistes, on parle de narcotrafiquants, parce que la crise a été mal gérée. C'est un problème de gouvernance. Le Mali a été mal gouverné depuis des décennies. Et aujourd'hui, maintenant, on se trouve avec une crise multidimensionnelle. Depuis, on parlait de rébellion Touareg. C'est devenu maintenant une rébellion à multiforme, parce qu'on parle de terroristes, on parle de djihadistes, on parle de processus des accords intérimaires. Nous savons tous que alors cette histoire d'accords intérimaires,
les autorités
plus mal à des pays que de résoudre le vrai problème. Parce que le vrai problème du Mali, nous devons nous poser la question. Est-ce que nous sommes tous d'accord pour l'unité du Mali, pour l'intégrité du Mali et pour que nous retrouvons la paix pour la marche du pays? Je ne pense pas que cela soit la démarche de tous. Mais nous sommes convaincus qu'il faut aller vers la paix. Il n'y a pas d'alternative à la paix. Mais la démarche parce que nous sommes en train de dérouler, je pense, très très difficilement que ça peut aboutir.
Merci Issa Kaoudjib. Nous allons observer quelques secondes de pause et nous reviendrons parler justement du rôle des religieux, comment les religieux peuvent donc contribuer à asseoir la paix au Mali.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
La commission Vérité, Justice, Réconciliation et les leaders religieux, quel apport pour la stabilité du Mali? C'est le sujet donc du grand dialogue d'aujourd'hui. Avant d'aborder justement le rôle des religieux, permettez-moi de vous poser cette question, M. Touré, Oumar Assey Touré de la CVGR. Pourquoi maintenant on a eu des crises récurrentes pratiquement depuis 1963, Issa Kaoudjib l'a rappelé, pourquoi ne pas avoir créé ce type de commission depuis? Pourquoi c'est maintenant qu'on y pense? Est-ce que le travail ne va pas être plus difficile, surtout si cette commission a pour mandat de faire la lumière depuis 1960?
Bien. Moi, je pense que il est important d'attirer peut-être l'attention des uns et des autres. Mon professeur l'a dit tantôt, il pense qu'il est trop tôt de pouvoir créer la commission. C'est vrai. Généralement, ces genres de commissions viennent dans des pays post-conflit. Or, chez nous, le conflit continue. C'est en cours. Mais je pense qu'il était important pour les autorités, pour la mise en œuvre de l'accord, de montrer leur volonté d'aller vers l'application de ce qui avait été retenu comme, n'est-ce pas, pour mettre en place, c'est-à-dire le système de l'accord. Et la commission fait partie, n'est-ce pas, des organes chargés de la mise en œuvre de l'accord. Si on n'avait pas créé la commission, si on était resté comme ça jusqu'au jour d'aujourd'hui, peut-être qu'on n'aurait pas dit, beaucoup de choses sont là en train d'être dites aujourd'hui, n'allaient pas être dites de cette façon-là. Mais au jour d'aujourd'hui, la commission, peut-être que les gens constatent que nous sommes un peu lents dans notre travail, c'est vrai. C'est une nouvelle situation que personne dans notre pays ne connaissait pas. C'est une justice transitionnelle. Il fallait, après la mise en place des commissaires, il fallait que les commissaires d'abord renforcent leurs capacités pour savoir faire face, n'est-ce pas, à leur nouvelle mission, ce qui a été fait. Nous nous sommes donné un cadre juridique pour pouvoir évoluer. Nous nous sommes donné un cadre organisationnel pour pouvoir faire le travail. Et au jour d'aujourd'hui, nous pensons, quand je prends un peu Moussa et Issa Wundjoun, ils sont représentés au niveau de la commission par le deuxième vice-président, n'est-ce pas, de cette commission-là. Pour dire que nous, à notre niveau, nous pensons aujourd'hui, nous avons nos documents nécessaires qui nous poussent à croire que cette réconciliation-là, nous allons arriver à notre fin. Pour dire que nous avons pour mission de pouvoir produire un rapport à la fin de notre mandat, rapport qui va être adressé aux plus hautes autorités, n'est-ce pas, du Mali, pour faire des recommandations par rapport à ce qu'on a vécu. Moi, je dirais tout simplement que par rapport aux crises, le mandat que la loi nous confère, c'est de 1960 à 2013. Ce qui fait en sorte que les différentes, comment s'appelle, crises de rébellion que nous avons connues dans notre pays n'ont pas été traitées. Donc, s'ils n'ont pas été traités de façon profonde.
Pourquoi avoir attendu avant de créer une telle commission?
N'ont pas été traités. Et je pense que l'État nous confère cela. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, en notre sein, nous avons 5 sous-commissions. La sous-commission chargée de la recherche de la vérité, aujourd'hui, elle est en train d'écouter les grands témoins à travers l'ensemble du pays, pour qu'on puisse creuser et aller et faire en sorte que, c'est-à-dire les crises-là, la façon dont ils n'ont pas été traités en amont depuis très longtemps, pour qu'on puisse pallier à cela. Effectivement, l'État a entendu pour ne pas mettre en place cette commission-là, mais au jour d'aujourd'hui, la commission est en place et moi, je pense qu'il faut y croire parce qu'il y a des bonnes volontés, il y a des gens qui sont aujourd'hui à pied d'œuvre pour faire en sorte que nous puissions quand même aboutir et connaître un peu les répétitions cycliques un peu des rébellions qui sont dans notre pays pour dire qu'est-ce qui s'est passé et comment nous sommes à ce niveau-là pour pouvoir faire diriger assez. Donc pour dire que la commission est en œuvre, n'est-ce pas, est à pied d'œuvre pour que le Mali puisse sortir vraiment grandi de ces crises-là. Et nous pensons, je tiens à préciser, parce que l'autre jour, par exemple, quand vous voyez un peu la crise de Massina, on nous fait appel, parce que dans notre mandat...
Donc,
nous,
je voulais dire, Aké Massina, le conflit intercommunautaire qui mandat, a eu lieu, la voilà, commission, dans la notre CVGR mandat, a eu à travailler là-dessus.
Tout à fait.
Là-dessus.
Dans notre mandat, je n'ai pas dit qu'ils ont eu à travailler là-dessus. Dans notre mandat, nous, on ne réagit pas automatiquement sur un conflit. C'est après le conflit que nous sommes là. Or, le conflit est en cours à Massina. Nous, notre rôle, nous n'avons pas, dans le mandat que l'État nous confère, nous n'avons pas ce droit. Donc, pour préciser, que pour éviter que les gens puissent faire de l'amalgame, parce qu'à chaque fois qu'on voit une crise péter dans une localité, les gens pensent à la commission. Or, en réalité, dans notre mandat, ce n'est pas notre travail. Notre travail, c'est de pouvoir savoir qu'est-ce qui s'est passé concrètement après la crise. Savoir les victimes, prendre les dépositions, et après, les bourreaux maintenant peut-être peuvent être recherchés par nos enquêteurs que nous sommes en train de recruter.
Merci, M. Touré. On va revenir tout à l'heure pour parler justement du rôle de la communication dans le travail de la commission. Alors, oui, Ibrahim Aïkassa souhaite réagir. Hein.
Je voudrais bien réagir sur l'intervention de M. Omar Touré. Et je pense que c'est cette incompréhension que nous avons toujours exprimée par rapport à la mise en œuvre de l'accord. La commission Justice, Vérité et Réconciliation est une disposition de l'accord. Quand vous prenez le texte de l'accord même, là, la conférence d'entente nationale est citée avant cette commission. Okay, mais on se retrouve que cette commission a été installée bien avant et a commencé à travailler. Okay? Et ce que nous constatons, c'est que simplement... Et M. Touré l'a dit, c'est que l'État est toujours pressé de montrer sa bonne volonté de mettre en œuvre l'accord, alors que les autres protagonistes ne le sont pas du tout. Et on a l'incompréhension est d'autant plus grande lorsque nous constatons que ce que nous désignons comme étant des présumés auteurs de crimes et de toute violation qui ont renié même la nationalité malienne se retrouvent dans justement des organes comme la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Je pense que la première vice-présidente était une classique du MNLA, okay, qui ont pris des armes, qui ont fait la rébellion, Batajmé, qui finalement est devenue ministre. Je parle de Mme Nina. Vous voyez, mais
est-ce que au nom de la paix, justement, c'était pas une bonne chose?
Oui, c'est bien beau, hein, au nom symbolique. De la paix, pour des gens qui n'ont jamais renoncé à leur intention primaire, je l'ai toujours dit ici, vous voyez la situation de Kidal, et je doute fort qu'il y ait des victimes à Kidal, à Menaka, ou à Ber, ou au-delà même de Gao, à Bourem, en Songo, mais qui ne peuvent pas exprimer leur mal, simplement parce que l'État n'est pas présent. C'est les groupes armés qui continuent à régenter ces zones-là. Et donc, les séances d'écoute qui sont en train d'être organisées aujourd'hui, mais ces gens-là ne prendront part. Il suffit qu'ils fassent un voyage sur Gao ou Tombouctou.
Donc, vous êtes un peu d'accord avec Issaka Odim quand il dit
oui, bien
dit
sûr.
Que cette commission,
je pense que j'avais commencé. J'ai commencé par cela. J'ai dit ça. Je salue la volonté des hommes et femmes qui animent cette commission, mais j'ai dit ça serait un coup d'épée dans l'eau et on tournera toujours en rond parce que l'objectif recherché ne sera pas véritablement. Parce que les autres protagonistes qui ont créé la crise ne sont pas installés dans cette logique de paix et de réconciliation. Voilà un peu ce que je voulais dire.
Merci Ibrahim Aïkassa. L'abbé Edmond, parlez-nous un peu du rôle des religieux dans la stabilisation du pays. On a vu d'ailleurs ce matin qu'une trentaine de leaders religieux de la région de Mopti ont participé à une formation sur la gestion de conflits communautaires. On a vu ce conflit communautaire qui a fait des morts dans la région de Ségou, plus précisément à Kemasina. On a vu que les religieux de toutes parts, chrétiens et musulmans, ont joué une part active dans la stabilisation de la zone.
Oui, je pense que le premier rôle même des leaders religieux, c'est ça, c'est de travailler à la paix entre les hommes, à la réconciliation entre les hommes et Dieu, et à ce qui est les conditions d'un bien-être pour tous les humains. Et le rôle des leaders religieux, c'est ça. Et la prière sert à cela, ainsi que toutes les actions que le leader religieux doit poser. Donc je crois que pour le cas du Mali, les leaders religieux que nous sommes, notre mission aujourd'hui consiste à œuvrer pour la paix, à appeler à la paix, à faire passer des messages de paix aux populations, à montrer par notre comportement et une certaine sincérité dans ce que nous disons et dans ce que nous faisons, que nous voulons le bien du Mali et que nous voulons le bien-être des Maliens. Donc je pense que c'est d'abord ça, ce que les Maliens et ce que l'État attend de nous. Ce que aussi le Mali attend de nous aujourd'hui, en tant que leader religieux, musulman et chrétien, c'est que notre parole et tout ce que nous allons faire, que cela justement contribue à soutenir l'État dans sa volonté. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de la volonté de l'État. qui est toujours là en première position, à vouloir montrer qu'il veut justement travailler pour la paix, pour la réconciliation, ce qui fait que quelquefois on a l'impression que l'État est en avance dans ses intentions par rapport aux autres. C'est vrai. Mais nous, en tant que leaders religieux, voyant ce que la crise a fait au Mali comme mal, notre mission aujourd'hui, c'est surtout de travailler en sorte à ce que nous sortions rapidement de cette crise. Alors je pense que nous devons d'abord être les premiers à nous sensibiliser pour que chacun de nous se sente concerné. Il ne faudrait pas que certains leaders religieux appellent à la paix pendant que d'autres appellent ou en tout cas œuvrent dans l'obscurité ou à la lumière dans le sens contraire. Nous devons tous travailler dans la même direction, ainsi que tous les Maliens d'ailleurs. Ce n'est pas seulement un appel à lancer aux Maliens ou aux leaders religieux, mais c'est à l'ensemble des Maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur, que chacun apporte sa contribution. Mais les leaders religieux ayant une position un peu plus forte au sein de la société peuvent davantage contribuer à ce que cette paix soit une réalité, à ce que la réconciliation soit une réalité. Donc je pense que notre rôle est assez important, tant au niveau de nos responsables au niveau de la nation, que au niveau de chaque leader religieux dans sa contrée. Parce que chaque leader religieux dans sa contrée aussi a une certaine force sur les populations auprès desquelles il vit. Et donc chacun de nous doit œuvrer là où il est pour que ensemble justement, nous puissions ramener la paix dans les cœurs et aussi dans les esprits.
Merci Issa.
Nous avons un grand rôle à jouer.
Merci Issa Kaoudjim du Haut Conseil islamique. On a plusieurs fois indexé, hein, surtout quand on parle de terrorisme, il y a parfois une stigmatisation justement de cette religion musulmane. Quel devrait être justement le rôle du leader religieux que vous êtes pour asseoir la paix dans le Mali et surtout pour réveiller les esprits, hein, par rapport au terrorisme? Est-ce que Issa Kaoudjim est avec nous? Alors, le temps que la technique, justement, puisse rejoindre Issa Kaoudjim, Oumar Touré de la CVJR, quelle est donc la spécificité de cette commission, hein, quand on la compare, par exemple, au Gachacha du Rwanda, ou on a vu la commission Vérité, Justice, Réconciliation également de l'Afrique du Sud, et on voit surtout qu'on a mis en avant la vérité d'abord, la justice ensuite. Alors, quel type de justice est-ce qu'on voudrait avoir? Est-ce que ça va être la justice classique, ou on va plutôt se pencher vers une espèce de justice transitionnelle?
Oui. Je tiens à préciser que nous avons une justice réparatrice. Ça n'a rien à voir avec la justice classique, pas du tout. Si les victimes, après leur déposition, pensent que nous, dans notre chemin, nous souhaiterons que victimes et bourreaux puissent se pardonner et que la réconciliation puisse être faite à ce niveau-là, si cela n'est pas le cas, une victime qui n'est pas d'accord est obligée d'aller devant les tribunaux pour pouvoir porter plainte. Voilà. Donc ça, c'est notre vision là-dessus. Maintenant, par rapport à la justice classique, les cas qui s'est passé au Rwanda. Vous savez, moi, j'ai été personnellement au Rwanda pour voir un peu, nous inspirer un peu de l'expérience que ces gens-là ont. Vous savez, quand vous partez à ce niveau-là, nous avons vu dans des associations au Rwanda où il y a des bourreaux et leurs victimes, ils sont dans les mêmes associations. Ils sont en train d'évoluer pour la réconciliation dans leur pays. Ça donne beaucoup de leçons. Les Gachacha, et à leur niveau, ils ont joué, c'est un principe de justice traditionnelle, et c'est ce qui a abouti, n'est-ce pas, à la mise en place d'un programme d'éducation civique, n'est-ce pas, citoyenne, et qui fait d'aujourd'hui le citoyen du Rwanda est respectueux par rapport aux institutions et par rapport à l'État. N'est-ce pas? Nous pensons, dans notre chemin, dans notre mandat, il est prévu exactement, n'est-ce pas, de passer par le même scénario, de former un citoyen modèle qui viendra peut-être demain pour dire que voilà, la commission Vérité, Justice et Réconciliation du Mali a pu apporter tel truc pour le renouveau, n'est-ce pas, d'un nouveau Malien qui fera en sorte que nous puissions quand même connaître un peu le béaba de ce qui se passe autour de notre État. Donc voilà un peu, ça fait partie de notre mission et nous n'avons pas le choix de nous déduire de cela. Nous sommes obligés, n'est-ce pas, d'aller pour former un nouveau citoyen pour le Mali.
Merci. Issa Kaoudjim est en ligne finalement. Issa Kaoudjim, quel doit donc être le rôle du leader religieux que vous êtes dans la construction de la paix, surtout en aidant justement cette commission à prospérer? Quand on parle aujourd'hui islam, il y a le stigma forcément terrorisme. Quel doit être votre rôle dans l'éveil de conscience par rapport à tout cela?
Ben, je pense que je peux me permettre de reformuler la question. Je pense que le problème de fond, il est occulté. On tourne en rond dans cette affaire. La commission n'est qu'un instrument. Et d'abord, c'est né d'une volonté politique. La commission n'est qu'un instrument de mise en œuvre de l'accord de paix. Alors, l'accord de paix en elle-même est en difficulté. Parce que nous sommes dans la crise. Et le fait de changer, alors, de main, en réalité, plus que jamais, le Mali s'est installé dans la crise. parce que les accords qui ont abouti à ce processus aujourd'hui est en panne, nous le savons tous, personne n'est naïf. Maintenant, on cherche un bouc émissaire, on cherche à diaboliser, mais qui est dupe? Le vrai problème du Mali, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, la communauté internationale n'a pas tenu ses engagements, et puis les instruments qui ont été mis en place pour essayer d'être le mécanisme de mise en œuvre de l'accord aujourd'hui ne fonctionnent pas. Il y a beaucoup de dysfonctionnements, et donc les populations sont partagées entre le doute et l'espoir. Et aujourd'hui, on veut essayer alors de donner un rôle biaisé aux religieux, parce que cette commission dialogue, vérité et réconciliation, naturellement, devrait être l'affaire des religieux. La justice classique est là, c'est le droit positif qu'on connaît. Maintenant, on parle de crise, il faut un mécanisme qui prend en compte nos valeurs sociétales et religieuses. Et donc, à sa tête, on ne peut pas mettre des administrateurs, des politiciens, et pour qu'ils gèrent ça. Parce que ce n'est pas une question de l'opposition majorité, mais il s'agit du Mali réel. Donc, moi, je pense qu'en réalité, cette commission, elle a déjà échoué, malheureusement. Donc, il n'y a pas de solution, sinon les leaders sont dans leur rôle. Voyez-vous, le Conseil islamique du Mali a fait un meeting, est allé à Matina pour réconcilier les gens, et ça n'a pas attendu la commission, n'a pas attendu un budget pour faire cela. Nous sommes dans notre rôle dans tous les jours, que ce soit les mosquées, que ce soit les temples, que ce soit les églises, que ce soit les leaders traditionnels. Je pense que le vrai problème, c'est l'institutionnel classique hérité du système colonial qui a montré ses limites et qu'aujourd'hui, il faut reformuler et trouver une voie de moyens pour résoudre le vrai problème par les Maliens et surtout par les Maliens. Parce que seuls les Maliens pourraient résoudre ce problème. Je suis désolé, cette commission est un échec.
Merci Issaka Oudjim. Quelques secondes de pause, hein, nous reviendrons vous permettre de réagir.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Merci de rester connecté au studio Tamani. Si vous venez de nous rejoindre, on parle justement de la commission Vérité, Justice, Réconciliation et du rôle des leaders religieux pour la stabilité et la paix au Mali. Oumar Touré de la commission Vérité, Justice, Réconciliation souhaite réagir.
Oui, je souhaite vraiment réagir par rapport à Issa. Je comprends pas un peu. Il montre déjà que nous, à notre niveau, nous allons échouer. Je pense que je lui laisse la responsabilité de ses propos. Nous avons rencontré aujourd'hui, hier, le Haut Conseil. En tout cas, c'est pas les avis que nous avons reçus là-bas. Donc, je lui laisse vraiment la responsabilité de ses propos. Et nous osons croire que nous, à notre niveau, il est clair que nous avons la volonté d'aller vers cela et que les victimes continuent à déposer leur déposition auprès de nos antennes. Et que nos preneurs de position sont là pour faire leur travail et l'accompagnement psychologique, médico-psychologique par rapport aux victimes qui sont dans les besoins urgents sont en train d'être faites. Et nous pensons que nous allons réussir cette mission-là. Parce que la composante, elle est quoi? C'est composé de religieux? C'est composé de la société civile.
Justement, le rôle des leaders traditionnels également là-dedans.
Ils sont tous dedans. La société traditionnelle du Mali, les religieux, les hauts conseils islamiques, les églises spirituelles, l'église catholique, l'église
protestante. Les femmes, les jeunes,
à travers moi-même, les jeunes. Moi, je suis arrivé par là, par le biais du Conseil national de la jeunesse, pour dire que l'ensemble, n'est-ce pas, de ces structures-là ont été consultées pour envoyer les noms de leurs représentants. Donc, mettre un administrateur à la tête, je pense que l'administrateur-là ne fait que coordonner les activités, ça n'a rien à voir, il ne peut pas du tout influencer le travail de la société civile par rapport aux gens qui travaillent là-dessus.
Alors, Ibrahim Kassa, quel est votre avis?
Merci bien.
On semble se tirailler un peu.
Je pense que, en fait, peut-être qu'il y a une incompréhension de fond.
Est-ce que vous pensez qu'il y a des avancées réelles déjà de cette commission?
En termes d'avancées, moi je dis c'est déjà l'effort.
On a vu l'installation des antennes régionales, même si
sur l'efficacité des antennes régionales du moment que l'État est absent dans la quasi-totalité des régions du Nord. Okay, en dehors des agglomérations, l'État n'est pas là. Alors que les victimes se trouvent un peu partout. Donc, je porte ma réserve. Et aujourd'hui, les bourreaux, en comparant la situation des bourreaux et des victimes, des supposés bourreaux victimes, okay, aujourd'hui au Mali, par rapport à ce qui prévaut au Rwanda, c'est qu'au Rwanda, les bourreaux ont fait amende honorable. Les bourreaux ont fait leurs aveux, ils ont demandé pardon et les victimes ont accepté. Et finalement, les gens se sont mis ensemble. Mais au Mali, les bourreaux continuent à snober, y compris l'État. À fortiori les victimes.
On a vu le cas de la Côte d'Ivoire également,
la où Côte d'Ivoire s'est pas très bien passé. Où ça s'est pas très bien passé parce que il y a ce que monsieur Jim évoquait tout de suite, une administratisation donc de la chose, excusez-moi du néologisme, mais c'est de dire on fait le tout administratif et on espère que ça va marcher. J'aurais préféré, comme je le disais à l'entame, que la conférence d'entente nationale travaille et les débats entre les populations réelles qui sont impliquées dans la crise en termes d'auteurs et de victimes, ok, et en ce moment, les représentants légitimes de ces populations dans lesquelles les victimes ont confiance, dans lesquelles les bourreaux supposés ont aussi confiance, compose donc une structure de ce genre et puisse justement écouter sur une base sincère les uns et les autres et dégager une porte de sortie en termes de voie vers la réconciliation et la paix. Parce que on risque fort de tourner en rond, la crise étant encore présente. On a vu le cas de Massina, mais Massina, c'est les suites de la crise de 2012, qu'on le veuille ou pas. Les djihadistes de Amadou Koufa, ils ont fait la démonstration à travers justement la coalition qui a été créée avec Ansardine, Acmi et tout le reste, que c'est eux. Donc c'est les suites de la crise. Maintenant, les religieux pourraient opportunement apporter des trucs, mais il faudrait qu'on leur donne du crédit. Voyez un peu la crise que nous avons connue en début de mois, en fin février, début mars à Gao par rapport aux autorités intérimaires. Mais c'est un religieux, un leader religieux de Gao, en la personne de l'imam Omar al-Mahdi de la mosquée Koued Gao, mais qui a tout de suite donné un coup d'arrêt par sa seule prestance, sa seule personnalité. Il a dit aux uns aux autres, arrêtez. Okay, et nous, maintenant, faudrait bien que l'État et les autres protagonistes respectent les engagements qui ont amené l'imam à intervenir dans ce sens. Et ça, c'est véritablement le chantier qui sera ouvert. Parce que avoir un pacte de réconciliation entre les victimes et les bourreaux, c'est sûr, mais véritablement mettre ça en application en termes de réparation ou autre, ça n'est une autre. Parce que souvent, c'est des engagements, pas seulement en termes monétaires ou autres, mais c'est des comportements qui doivent changer. C'est que qu'on se dise qu'il n'y ait plus des citoyens maliens qui sont prêts au premier coup à renier la nationalité malienne, ça c'est très grave. Mais on a banalisé ça, qu'on prenne des armes contre l'État et qu'on agresse les populations. Ce n'est même pas l'État, les populations. On les expropie de leurs biens, de leurs véhicules, de tout. On les blesse, on les tue. Il y a des violations graves des droits humains. Et les enfants ne vont plus à l'école, la santé n'est plus assurée. Est-ce que vous comprenez ? Il y a la terreur. Vous voyez, les groupes armés continuent à tirer à Tombouctou. Vous voyez, l'État est absent et on voudrait quand même continuer à rassurer les gens par rapport à cette voie vers la réconciliation. Ça va être très difficile. Je ne suis pas aussi pessimiste que M. Guim, mais je vais dire que ça va être très difficile. J'ai bien peur que ça ne soit un coup d'épée dans l'eau.
Merci. L'abbé Edmond Dambélé, comment est-ce qu'on peut faire selon vous pour avoir le soutien des Maliens, pour justement avoir une bonne marche de cette commission Issa Kaoudjim l'a dit, on a l'impression que les Maliens ne savent pas vraiment ce que cette commission devrait faire.
Bon, je crois que ce n'est pas peut-être totalement faux, parce que ce matin, nous avons effectivement rencontré les membres de la commission vérité et réconciliation à la juridiction de Bamako. Et ce que nous leur avons demandé, effectivement, c'est de renforcer la communication. Parce que effectivement, nous avons l'impression que beaucoup de Maliens ne connaissent pas encore les missions assignées à la commission. Beaucoup ignorent l'existence de cette commission. Et pour ceux qui savent qu'elle existe, beaucoup ne savent pas quelle est sa mission, quels sont les objectifs qui ont été assignés à cette commission. Donc nous leur avons demandé ça. Il faudrait beaucoup plus de communication pour que nous sachions que cette commission existe, qu'elle existe pour nous, pour chaque Malien, pour chaque Malienne, qu'elle existe pour la paix, pour la réconciliation et pour l'unité du Mali. Et que, connaissant les missions donc, de cette commission,
chaque Malien, là où il se trouve, puisse lui apporter son soutien. Donc, ben, je pense qu'à ce niveau, cette information, je pense, nous occupe à beaucoup de niveaux. Donc, nous l'avons rappelé ce matin au membres de la commission et nous avons demandé à ce qu'ils travaillent davantage, à se faire connaître davantage les Maliens pour qu'elles puissent mieux travailler. Parce qu'elles ne travaillent pas pour elles, elles travaillent pour les Maliens d'abord. Voilà. Au-delà de l'État, elle travaille pour les Maliens. Donc, la commission se fasse connaître. Et deuxièmement, je pense qu'il faudrait éviter, comme les uns ou les autres l'ont dit aussi, que la commission soit trop administrative. Parce que c'est ça qui va en ce moment paralyser un peu son travail. Mm-hmm. Qu'elle soit une commission qui travaille sur le terrain, qui aille vers les populations, même si les populations sont invitées à venir vers les représentants de cette commission ici à Bamako et partout où elle a des antennes, mais que la commission elle-même aussi aille vers les citoyens, non seulement pour les informer, mais pour leur dire, venez, nous sommes là pour vous et nous allons vous aider. Donc ça, nous demandons aussi cet effort à la commission, qu'elle évite d'être trop administrative et qu'elle joue un rôle plus populaire, plus social auprès des populations. Mais la troisième chose que je demanderais, donc, ce serait que nous, les leaders religieux, ainsi que tous ceux qui peuvent aider la commission, que nous fassions de notre mieux. Il ne faudrait pas que nous soyons trop pessimistes déjà pour dire que la commission va échouer ou bien elle n'aura pas peut-être suffisamment de résultats. Je pense que vu la profondeur de la crise, chacun de nous doit tout faire aujourd'hui pour que nous sortions vite de cette crise et surtout pour que nous ne retombions plus dans une autre crise. Donc, la contribution de chacun est importante là où il se trouve. Voilà. Qu'on soit membre de la commission ou pas, et à chacun de nous d'œuvrer selon ses capacités, selon sa position, selon ses pouvoirs, pour que nous sortions de cette crise et que nous ne retombions plus dans une autre crise. Donc, c'est l'appel que moi je voudrais donc lancer à tous.
Merci, l'abbé Edmond Dambélé. Issa Kaoudjim du Haut Conseil islamique, comment justement rectifier le tir pour que cette commission soit vraiment efficace aujourd'hui?
Bon, je pense que l'efficacité, c'est en synergie, en allant ensemble. Notre pays a une histoire de laïcité vraie, c'est-à-dire que les gens s'acceptent mutuellement. Nous sommes des religieux, musulmans, catholiques, protestants, religions du terroir. C'est ça qui fait le charme et la beauté de notre pays, sa spécificité. Donc nous ne réussirons jamais si nous ne prenons pas en compte ces valeurs. Et je prends un exemple d'union sacrée entre les musulmans, les chrétiens pour des questions essentielles de notre pays. Vous avez vu une visite historique en Europe pour dire qu'au Mali, il n'y a pas de problème entre les religions. Je pense que cette commission devrait endosser d'abord vraiment les leaders charismatiques, les leaders de référence qui ont une légitimité. Et malheureusement, on a débauché ça et là, mais la tête est administrative et ce n'est pas un problème administratif. Et je suis désolé de le dire, il faut aller en synergie, il faut se remettre en cause et pour que nous trouvions des voies et moyens pour sortir notre pays de cette crise qui ne fait pas le bonheur de notre pays. Alors je pense qu'aujourd'hui, chacun doit faire vraiment un mea culpa et pour mieux repartir. Et je pense que c'est en cela que la Commission trouvera les vraies ressources pour aller de l'avant et que les populations puissent s'en approprier et accepter cette Commission si elle a l'adhésion des religieux, des leaders traditionnels, parce qu'aujourd'hui elle est administrative, elle est budgétivore, elle a un budget de fonctionnement, elle fait comme font les Occidentaux, alors que notre problème est malien et le traitement n'est pas que malien et la solution ne viendra que de nous-mêmes. Voilà ce que j'ai ajouté.
Merci Sakaoudim. Très rapidement, en une minute, hein, Oumar Assey Touré de la CPI.
Bon, moi peut-être que je profite, peut-être si c'est les derniers mots, profiter de votre antenne pour lancer toujours, n'est-ce pas, un appel pressant aux victimes. N'est-ce pas, pour venir faire leur déposition auprès de nos antennes. Les victimes, quelles que soient, il a dit tantôt, ils sont partout. Ceux qui sont réfugiés à Bamako ou qui sont, ils peuvent aller à l'antenne la plus proche, n'est-ce pas, pour faire leur déposition. Et nous, nous osons croire que toute cette année-là, 2017, c'est la période où les victimes doivent déposer auprès de nos antennes. Et en 2018, les enquêtes vont commencer et peut-être qu'après, fin 2018, nous osons croire que notre rapport et notre recommandation pourra être remis à qui des droits.
Alors, est-ce que vous avez quelques politiques hein, qui vont un peu plus à l'endroit des différentes populations et surtout expliquer le rôle de cette commission avec des justices et réconciliation au Mali?
Vous savez, quand nous avons commencé, on a d'abord commencé par l'appropriation du mandat de la CVGR. On a rencontré pratiquement l'ensemble des couches de la société malienne. L'ensemble. Je dirais bien l'ensemble. Mais il reste à dire que la communication, il n'y a pas de trop. Comme on le dit, on doit encore reprendre
il n'y a aucun problème pour qu'on puisse aller, pour que les mandats de la CVGR puissent être calés par tout le monde.
Donc je m'excuse vraiment.
Merci, merci beaucoup Oumar. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Merci à vous mes chers invités. Cette émission a été réalisée par Ibrahim Aran Diallo. Sedumbo était à la mise en onde. Gagné Kanté à la régie vidéo. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org. Merci, à demain pour une autre émission.
Le grand dialogue.
Siki Kafoba.
Et Dewani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo demandé.
Chenne Berry. Siki Kafoba.
Le grand dialogue.